Les marchandes de sable, conte de La Fontaine. Le berceau, nouvelle tirée de Boccace. Non loin de Rome, un hôtelier était sur le chemin qui conduit à Florence, homme sans bruit. Et qui ne se piquait de recevoir gens de grosses dépenses, même chez lui rarement au JT. Sa femme était encore de bonne affaire et ne passait de beaucoup les 30 ans. Quant au surplus, ils avaient 2 enfants, garçon d'un an, fille en âge d'enfer. Comme il arrive en allant et venant, Pinuccio, jeune homme de famille, jeta si bien les yeux sur cette fille qu'autant la trouva gracieuse et gentille, d'esprit si doux et d'air tant attrayant qu'il s'en piqua, très bien le lui sut dire. Muet n'était, elle sourde non plus. Dont il avint qu'il sauta par-dessus ses longs soupirs et tout se vint martyr. Se sentir pris, parler, être écouté, ce fut tout un. Car la difficulté ne gisait pas à plaire à cette belle. Pinuccio était gentilhomme bien fait. Et jusque-là, la fille n'avait fait grand cas de gens de même étoffe qu'elle. Non qu'elle crût pouvoir changer d'état, mais elle avait, nonobstant son jeune âge, le cœur trop haut, le goût trop délicat. Colette donc, ainsi qu'on l'appelait, en mariage à l'envie demandée, rejetait l'un, de l'autre ne voulait, et n'avait rien que Pinuccio en l'idée. Long pour parler avec son amant n'était permis, tout leur faisait obstacle. Les rendez-vous et le soulagement ne se pouvaient à moins d'un miracle. Cela ne fit qu'irriter leurs esprits. « Ne gênez point, je vous en donne avis. Tant vos enfants, ô vous, père et mère, tant vos moitiés, vous, époux et mari, c'est où l'amour fait le mieux ses affaires. » Pinuccio, certain soir qu'il faisait un temps fort brun, s'en vint en compagnie d'un sien ami dans cette hôtellerie de Mandégite. On lui dit qu'il venait un peu trop tard. « Monsieur, ajouta l'hôte, vous savez bien comme on est à l'étroit dans ce logis. Tout est plein jusqu'au toit. Mieux vous vaudrait passer outre sans faute. Ce gîte n'est pour gens de votre état. » N'avez-vous pas encore quelques grabats ? Reprit l'amant. Quelques coins de réserve ? L'autre part. Il ne nous reste plus que notre chambre, où 2 lits sont tendus. Et de ces lits, il n'en est qu'un qui serve aux survenants. L'autre, nous l'occupons. Si vous voulez coucher de compagnie, vous et monsieur, nous vous hébergerons. Pinuccio dit. Volontiers, je vous prie que l'on nous serve à manger au plus tôt. Leur repas fait, on les conduit en haut. Pinuccio, sur l'avis de Colette, marque de l'œil comme la chambre est faite. Chacun couché, pour la belle on mettait un lit de camp, celui de l'autre était contre le mur, attenant de la porte, et l'on avait placé de même sorte, tout vis-à-vis, celui du survenant. Entre les deux, un berceau pour l'enfant, et toutefois plus près du lit de l'autre. Cela fit faire une plaisante faute à cet ami qu'avait notre galant. Sur le minuit, que l'hôte apparemment devait dormir, l'hôtesse en faire autant, Pinuccio, qui n'attendait que l'heure et qui comptait les moments de la nuit, sont en venue, ne fait longue demeure. Au lit de camp s'en va droit et sans bruit. Pas ne trouva la pucelle endormie, j'en jurerai. Colette a pris un jeu qui, comme on sait, lasse plus qu'une nuit. Trêve se fit, mais elle dura peu. Larcin d'amour ne veut longue pause. Tout à merveille allait au lit de camp, quand cet ami qu'avait notre galant, pressé d'aller mettre ordre à quelque chose, qu'honnêtement exprimé je ne puis, voulut sortir, et ne put ouvrir lui sans enlever le berceau de sa place, l'enfant avec, qu'il mit près de leur lit. Le détourner aurait fait trop de bruit. L'y revenu, près de l'enfant il passe, sans qu'il daignât le remettre en son lieu, puis se recouche, et quand il plut à Dieu, se rendormit. Après un peu d'espace dans le logis, je ne sais quoi tomba. Le bruit fut grand, l'hôtesse s'éveilla, puis alla voir ce que ce pouvait être. À son retour, le berceau la trompa, ne le trouvant joignant le lit du maître. « Saint-Jean, dit-elle en soi-même aussitôt, j'ai pensé faire une étrange bévue. Près de ces gens, je me suis, peu sans faux, remise au lit en chemise ainsi nue. C'était pour faire un bon charivari. Dieu soit loué que ce berceau me montre que c'est ici qu'est couché mon mari. » Disant ces mots, auprès de cette amie, elle se met. Folle ne fut, n'étourdit, le compagnon, dedans un tel rencontre, la mit en œuvre, et sans témoigner rien, il fit l'époux. Mais il le fit trop bien. Trop bien, je faux, et c'est tout le contraire. Il le fit mal, car qui le veut bien faire doit en besogne aller plus doucement. Aussi l'hôtesse eut quelque étonnement. « Car mon mari, dit-elle, et quelle joie le fait agir un homme de 20 ans. Prenons ceci, puisque Dieu nous l'envoie, nous n'aurons pas toujours tel passe-temps. » Elle nous dit ces mots entre ses dents que le galant recommence la fête. La dame était de bonne emplette encore. J'en ai, je crois, dit un mot dans la bord. Chemin faisant, c'était fortune honnête. Pendant cela, Colette, appréhendant d'être surprise avec son amant, le renvoya, le jour venant à poindre. Pinuccio, voulant aller rejoindre son compagnon, tomba tout de nouveau dans cette erreur que causait le berceau. Et pour son lit, il prit le lit de l'hôte. Et il n'y fut pas qu'en abaissant la voix, gens trop heureux font toujours quelques fautes. « Ami, dit-il, pour beaucoup je voudrais te pouvoir dire à quel point va ma joie. Je te plains fort que le ciel ne t'envoie tout maintenant même bonheur qu'à moi. Ma foi, Colette est un morceau de roi, si tu savais ce que vaut cette fille. J'en ai bien vu, mais de telle entre nous, il n'en est point. C'est bien le cuir le plus doux, le corps mieux fait, la taille plus gentille, et des tétons, je ne te dis pas tout. Quoi qu'il en soit, avant que d'être au bout, gaillardement 6 postes se sont faites, 6 de bon compte, et ce ne sont sort nettes. » D'un tel propos, l'hôte, tout étourdi, d'un ton confus, gronda quelques paroles. L'hôtesse dit tout bas à cette amie, qu'elle prenait toujours pour son mari, « Ne reçois plus chez toi ces bêtes folles. N'entends-tu point comme ils sont en débat ?» En son séant, l'hôte, sur son grabat, s'étant levé, commence à faire éclat. « Comment ? » dit-il d'un ton plein de colère. « Vous veniez donc ici pour cette affaire, vous l'entendez, et je vous sais bon gré de vous moquer encore comme vous faites. Prétendez-vous, beau monsieur, que vous êtes en demeurée quitte à si bon marché ? Quoi, ne tient-il qu'à honir des familles ? Pour vos ébats, nous nourrirons nos filles, j'en suis d'avis. Sortez de ma maison, je jure Dieu que j'en aurai raison. Et toi, coquine, il faut que je te tue. » À ce discours proféré brusquement, Pinuccio, plus froid qu'une statue, resta sans pouls, sans voix, sans mouvement. Chacun se tut l'espace d'un moment. Colette entra dans des peurs non pareilles. L'hôtesse, ayant reconnu son erreur, tint quelque temps le loup par les oreilles. Le seul ami se souvint par bonheur de ce berceau, principe de la chose. Adressant donc à Pinuccio sa voix. « T'en tiendras-tu » dit-il, « une autre fois. T'ai-je averti que le vin serait cause de ton malheur ? Tu sais que quand tu bois, toute la nuit tu cours, tu te démènes, et va comptant 1000 chimères vaines que tu te mets dans l'esprit en dormant, reviens au lit. » Pinuccio, au même instant, fait le dormeur, poursuit le stratagème, que le mari prit pour argent comptant. Il ne fut pas jusqu'à l'hôtesse même qui n'y voulut aussi contribuer. Près de sa fille, elle alla se placer, et dans ce poste, elle se sentit forte. « Par quel moyen ?» Comment, de quelle sorte, s'écria-t-elle, aurait-il pu coucher avec Colette et la déshonorer? Je n'ai bougé toute nuit d'auprès d'elle, elle n'a fait ni pis ni mieux que moi. Pinuccio nous l'allait donner belle. L'autre prit. C'est assez, je vous crois. On se leva, ce ne fut pas sans rire, car chacun d'eux en avait sa raison. Tout fut secret, et quiconque eut du bon par devers soi le garda sans rien dire. Mazé de Lamporeccio, nouvelle tirée de Boccace. Le voile n'est le rempart le plus sûr contre l'amour, ni le moins accessible. Un bon mari, mieux que grille ni mur, y pourvoira, si pourvoir est possible. C'est à mon sens une erreur trop visible à des parents, pour ne dire autrement, de présumer, après qu'une personne bon gré mal gré s'est mise en couvent, que Dieu prendra ce qu'ainsi l'on lui donne. Abus, abus, je tiens que le malin n'a revenu plus clair et plus certain, sauf toutefois l'assistance divine. Encore un coup, ne faut qu'on s'imagine que d'être pur et net de péché soit privilège à la guimpe attachée. Nénida, non, je prétends qu'au contraire, filles du monde ont toujours plus de peur que l'on ne donne atteinte à leur honneur. La raison est qu'elles en ont à faire. Moi, d'ennemis, attaque leur pudeur. Les autres, non pour seul adversaire, tentation, fille d'oisiveté, ne manque pas d'agir de son côté. Puis le désir, enfant de la contrainte. Ma fille est nonne, ergo c'est une sainte, mal raisonnée. Des 4 parts, les 3 en ont regret et se mordent les doigts, font souvent pis. Au moins l'ai-je ouï dire, car pour ce point je parle sans savoir. Boca s'en fait certains comptes pour rire que j'ai rimé comme vous allez voir. Un bon vieillard en un couvent de filles autrefois fut labourer le jardin. Elles étaient toutes assez gentilles et volontiers jasaient dès le matin. Tant ne songeaient au service divin qu'à soi montrer et parloirs à guimper bien blanchement comme droite poupée, prêtes chacune à tenir coup aux gens. Et n'était bruit qu'il se trouva léan fille qui n'eut de quoi rendre le change se renvoyant l'une ou l'autre l'étoffe. 8 sœurs étaient et l'abbesse son 9. si mal d'accord que c'était chose étrange. De la beauté, la plupart en avaient, de la jeunesse, elles en avaient toutes. Et ce tuilieux beau-père fréquenté, comme on peut croire, étant bien supputé qu'il ne manquait à tomber sur leur route, le bon vieillard, jardinier de Sudi, près de ses sœurs, perdrait presque l'appétit, à leur caprice il ne pouvait suffire. Toutes voulaient au vieillard commander, dont ne pouvant entre elles s'accorder. Il souffrait plus que l'on ne saurait dire. Force lui fut de quitter la maison. Il en sortit de la même façon qu'était entré là-dedans le pauvre homme, sans croix ne pile et n'ayant rien en somme qu'un vieil habit. Certains jeunes garçons de Lamporec, si j'ai bonne mémoire, dit au vieillard un beau jour, après boire, en raisonnant sur le fait des nonains, qu'il passerait bien volontiers sa vie près de ses sœurs et qu'il avait envie de leur offrir son travail et ses mains, sans demander récompense ni gage. Le compagnon ne visait à l'argent. Trop bien croyait, ses sœurs étaient peu sages, qu'il en pourrait croquer une en passant, et puis une autre, et puis toute la troupe. Nuto lui dit, c'est le nom du vieillard, « Crois-moi, Mazé, mets-toi quelque autre part. J'aurais mieux être sans pain ni soupe que d'employer en ce lieu mon travail. Les nonnes sont un étrange bétail. Qui n'a tâté de cette marchandise ne sait encore ce que c'est que tourment. Je te le dis, laisse-la ce couvent, car d'espérer les services à leur guise, c'est un abus. » L'une voudra du mou, l'autre du dur. Par quoi je te tiens fou, d'autant plus fou que ces filles sont sottes. Tu n'auras pas œuvre faite entre nous. L'une voudra que tu plantes des choux, l'autre voudra que ce soit des carottes. Mazé reprit. Ce n'est pas là le point. Vois-tu, Nuto, je ne suis qu'une bête. Mais dans ce lieu, tu ne me verras point un mois entier sans qu'on m'y fasse fête. La raison est que je n'ai que 20 ans. Et comme toi, je n'ai pas fait mon temps. Je leur suis propre et ne demande en somme que d'être admis. Dit alors le bonhomme. « Au factotum, tu n'as qu'à t'adresser. Allons-nous-en de ce pas lui parler. »« Allons, » dit l'autre. « Il me vient une chose dedans l'esprit. Je ferai le muet et l'idiot. »« Je pense qu'en effet, » reprit Nuto, « cela peut être cause que le pater avec le factotum n'auront de toi ni crainte ni soupçon. » La chose alla comme il l'avait prévu. Voilà Mazé, à qui pour bienvenue l'on fait bêcher la moitié du jardin. Il contrefait le seau et le badin, et cependant laboure comme un cire. Autour de lui, les nonnes allaient rire. Un certain jour, le compagnon dormant, ou bien feignant de dormir, il n'importe, Boccace dit qu'il en faisait semblant, deux des nonains le voyant de la sorte seul au jardin, car sur le haut du jour, nulle des sœurs ne faisait long séjour, hors le logis, le tout crainte du hall. De ces deux donc l'une, approchant Mazé, dit à sa sœur, « Dedans ce cabinet, menons ce seau. » Mazé était beau mal, et la galande à le considérer avait pris goût. Pourquoi s'en différer, Amour lui fit proposer cette affaire. L'autre reprit, « Là-dedans, et quoi faire ?» Quoi, dit la sœur, je ne sais, on verra. Ce que l'on fait alors qu'on en est là, ne dit-on pas qu'il se fait quelque chose ? Jésus, reprit l'autre sœur en se signant, que dis-tu là ? Notre règle défend de telles pensées. S'il nous fait un enfant, si l'on nous voit, tu t'en vas être cause de quelque mal. On ne nous verra point, dit la première. Et quant à l'autre point, cesse à l'armée avant que le coup vienne. Usons du temps, sans nous tant mettre en peine et sans prévoir les choses si loin. « Nul n'est ici, nous avons tout à point, l'heure et le lieu, si tout fut que la vue n'y te pût passer. Et puis sur la venue, je suis d'avis qu'une tasse de guet, je suis d'avis qu'une fasse le guet, tandis que l'autre étant avec Mazé, à son bel aise aura lieu de s'instruire. Il est muet et n'en pourra rien dire. »« Soit fait, » dit l'autre, « il faut à ton désir acquiescer et te faire plaisir. Je passerai, si tu veux, la première pour t'obliger. Au moins à ton loisir, tu t'ébattras, puis après de manière qu'il ne sera besoin d'y retourner. » Ce que j'en dis n'est que pour t'obliger. Je le vois bien, dit l'autre, plus sincère. Tu ne voudrais sans cela commencer assurément, et tu serais honteuse. Disant ces mots, elle éveilla Mazé, qui se laissa mener au cabinet, tant il resta cette sœur scrupuleuse, qu'à la fin l'autre, allant la dégager, de faction l'a dû faire changer. Notre muet fait nouvelle partie, il s'en tira, non si gaillardement. Cette sœur fut beaucoup plus mal lotie. Le pauvre gars acheva simplement 3 fois le jeu, puis après il fit chasse. Les deux nonains n'oublièrent la trace du cabinet non plus que du jardin. Il ne fallait leur montrer le chemin. Mazé pourtant se ménagea de sorte qu'à sœur Agnès, quelques jours en suivant, il fit apprendre une semblable note en un pressoir, tout au bout du couvent. Sœur Angélique et sœur Claude suivirent, l'une au dortoir, l'autre dans un cellier. Tant qu'à la fin, la cave et le grenier, du fait des sœurs, maintes choses apprirent. Point n'en resta que sœur Mazé ne régala au moins mal qu'il pouvait. La baisse aussi voulut entrer en danse. Elle eut son droit, double et triple pitance. De quoi les sœurs jeûnèrent très longtemps. Mazé n'avait faute de restaurant. Mais restaurants ne sont pas grandes affaires à tant d'emplois. Tant pressèrent le air qu'avec la baisse, un jour venant au choc, J'ai toujours oui, se dit-il, car mon coq n'en a que 7, au moins qu'on ne me laisse toutes les 9. Miracle, dit l'abbesse, venez mes sœurs, nos jeunes, on t'en fait que Mazé parle. Alentour du muet, non plus muet, toutes vite accoururent, tint chapitre, et sur leur conclure qu'à l'avenir, Mazé serait choyé pour le plus sûr, car s'il fut renvoyé, cela rendait la chose manifeste. Le compagnon, bien nourri, bien payé, fit ce qu'il put, d'autres firent le reste. Il les engagea de petits masillons, desquels on fit de petits moignillons. Ces moignillons devinrent bientôt pères, comme les sœurs devinrent bientôt mères, à leur regret, pleines d'humilité, mais jamais nom ne fut mieux mérité.